peu avant 4 heures du matin. Nous sommes le 11 juillet 1881, au début d'un été chaud, d'un été agréable. Le vent de bâbord vient frapper le bastingage et fait craquer le bois de la coque du Bacchante. Ce navire école de la Royal Navy accueille depuis quelques semaines deux princes royaux de la couronne. Le duc d'York, futur roi George V, et son jeune frère, Albert Victor, se trouve sur le pont. Nous sommes au cœur des eaux australiennes, en direction de Sydney. La nuit se meurt dans quelques instants. Alors que le soleil se lèvera, les deux Altesses royales seront terrorisées par une apparition aussi inattendue que légendaire. Celle d'un navire fantôme qui traverse les océans depuis des siècles, rendant fous les marins qui osent le regarder avec insistance. 4 heures, l'heure hache de mon histoire. Quelques minutes plus tôt, le jeune prince George est sorti de sa cabine. Pas une cabine de première classe, non, l'une de celles occupées par les marins. Durant ce voyage, lui et son frère sont des élèves comme les autres. Futur roi d'Angleterre ou pas, ici, ça n'a aucune importance. Voilà pourquoi George a choisi de servir la Navy. C'est le symbole de la puissance de l'Angleterre, certes, mais mieux encore, personne dans ce navire, ne les place sur un piédestal. Non, les officiers se permettent aussi de leur hurler dessus s'ils ne sont pas assez efficaces. Oh, c'est quelque peu revigorant pour les princes, cet esprit de camaraderie issu de toutes les conditions sociales. La famille royale britannique, c'est le fer de lance de tout un empire. Et sa flotte, un fleuron qui respire la gloire et le succès. Enfin, comment ne pas s'engager dans la Navy quand on est prince ? Depuis des siècles, les navires de Sa Royale Majesté glissent sur les mers et les océans avec succès. Devenue mythique, la Navy a formé des hommes qui sont devenus pour tout le royaume des braves dont on raconte les hauts faits. Des héros qu'on pourrait rapprocher de la mythologie. Hercule et ses 12 travaux, remplacés sur les bancs de l'Académie militaire par l'écrasante victoire de Nelson à Trafalgar ou la déroute de l'invincible armada espagnole en 1588. Invincible. Mon œil. Rien de tel qu'un marin anglais pour faire frémir l'Europe. Y compris ces diables de Batave qui, tout un temps, ont tenté de rivaliser. Sans succès. Bon, c'était prévisible. Même Napoléon, l'as des as des batailles sur terre, s'est cassé les dents dans son projet de débarquer en Angleterre. Terre sacrée, jamais souillée depuis Guillaume le Conquérant. Et puis aussi, il faut bien l'avouer, même sur terre, l'armée britannique a eu son mot à dire. Et le prince, en s'étirant et en enfilant son uniforme avec empressement, de repenser un court instant à Wellington et à la bataille de Waterloo. Rapidement, George retrouve son frère Albert Victor qui parle avec l'un des matelots juste à côté du mât principal. L'air frais qui passe dans ses cheveux et qui glisse le long de sa nuque lui apporte un nouveau souffle. Il respire profondément. Le jeune homme souffre de cette pression constante liée à sa position à venir. Son père, le souverain Édouard VII, le sait très bien. Et il tente de soutenir son fils de la meilleure manière possible, en lui accordant de temps à autre la liberté dont il a besoin. La météo de ces derniers jours fut magnifique. Les eaux australes, paisibles et chaudes, donnent à cette expédition des airs de croisière. Seules les prises de poste très tôt le matin rappellent que les vacances ne sont pas pour tout de suite. Cette fin de nuit particulièrement est éclairée de l'éclat d'une lune aussi blanche que mystérieuse. Les étoiles dansent dans la Voie lactée et les constellations semblent presque en compétition les unes avec les autres. La tête levée vers le ciel, le futur roi d'Angleterre risque le torticolis tant il est happé par ce spectacle enivrant. Ici, la grande ourse se sublime. Là, la constellation du Centaure montre le chemin vers le sol australien. La destination du navire est le port de Sydney. Les élèves de la Royal Navy seront d'ailleurs dans quelques heures Enfin, peut-être un jour, si le vent ne se lève pas. Cette atmosphère calme et placide ne convient guère au prince. Ils préfèrent tous deux les défis des tempêtes et des vents qui viennent fouetter les voiles, les fragiliser les cales. Sa moustache naissante est recouverte de sel. George est ailé par James, qui cette nuit est la vigie du navire. D'un timide geste de la main, le prince lui renvoie sa démonstration d'amitié. Le capitaine du vaisseau, lui, est à l'autre bout du pont principal, du côté de la poupe. Il n'a pas encore remarqué les deux jeunes altesses royales qui ont pris place pour leur service. Ah, il n'est pas commode, ce capitaine. Vieil officier issu d'une famille dont le père était à Trafalgar, mais l'aura qu'il dégage pourrait à elle seule résumer le poids de la Navy à travers l'histoire. La meilleure marine du monde a encore de beaux jours devant elle avec des formateurs pareils. Le jeune Albert Victor, lui, un peu en dilettante ce matin, se rapproche des balustrades et passe le nez par-dessus pour regarder l'écume s'écraser contre la coque. D'un œil aussi aiguisé que celui d'un lynx, l'officier qui se trouve sur le pont avec eux le reprend de voler et le punit. Il ira nouer des cordages pour son insolence. Le prince ne pipe mot et son frère ne compte pas le tirer d'affaire pour sa bêtise. Le jour est sur le point de se lever. À l'horizon, les premiers rayons du soleil percent enfin la noirceur de la nuit qui vient de s'écouler. C'est le moment que choisit le vent pour se lever. Si fort, si soudain, que le prince George quitte la tâche qu'il était en train d'accomplir pour se concentrer sur les visages devenus graves de ses formateurs. Mais que se passe-t-il? Une mini-tornade ou quelque chose du genre? C'est pas du tout la saison, pourtant. La casquette de son frère s'envole et vient mourir beaucoup plus loin, dans les eaux qui s'agitent. Le navire, comme balancé de gauche à droite, craque et avance péniblement. Tout le monde sur le pont semble concerné par cette menace qui tombe comme un cheveu dans la soupe d'une fin de nuit jusqu'alors délicieuse. L'inquiétude se lit sur les visages. Le prince jette un coup d'œil à James, son camarade en haut de la vigie. Le jeune homme se cramponne, tient bon. Il met en place les procédures et les gestes qu'on lui a appris, mais tout le monde est tendu. Est-ce l'incompréhension ou le manque d'expérience qui gagne les chairs et provoque ses angoisses? Chacun leur tour et calmement, les officiers viennent en nombre s'enquérir auprès du capitaine. C'est qu'un petit coup de vent, voilà le retour officiel. Mais c'était sans compter sur James, qui d'une voix brisée vient rompre le silence dans la tempête. Navire droit devant! Comment est-ce possible? Aucun signe d'une quelconque embarcation n'a été perçu auparavant. D'instinct, le regard du prince se dirige vers l'avant du navire. Son sang se glace. Tout près de la coque de leur navire, un autre bateau, immense, lancé à toute vitesse, vient les prendre de flanc. Le fou, il va leur couper la route. Une chape de plomb s'abat sur tout l'équipage. Baigné d'une étrange et mystique lumière rougeoyante, le navire qui leur fonce dessus paraît très ancien. Approchant par bâbord, il semble presque voler sur les eaux, avec une aisance et une grâce quasi surnaturelles. Les enfers sur les eaux qui semblent venir pour les happer eux et les conduire chez Satan à vitesse grand V. Alors qu'ils se trouvent maintenant à moins de 200 mètres, le capitaine et ses hommes prennent le temps d'observer le bateau. Il a la mâture et les voiles d'un brick, un modèle de navire à deux mâts, un grand au centre et un mât de misaine plus petit à l'avant. Les voiles carrées, elles, sont aussi caractéristiques. Mais que vient faire un navire de ce type, si ancien, dans les eaux australiennes? Le cadet militaire de garde sur le pont se précipite vers le gaillard d'avant afin de le voir plus distinctement. Et alors qu'il s'y agrippe tant bien que mal, un cri terrifiant vient briser les derniers instants de rationalité. James, du haut de sa vigie, le premier à avoir vu l'apparition, hurle à ses compagnons que le bateau a disparu. Terrorisé, se rendent compte que le vaisseau qui s'apprêtait il y a peu à leur foncer dessus vient en effet de disparaître, emportant avec lui dans les abysses sa lumière rouge et la tempête. La mer est redevenue d'huile. Le soleil levant, lui, a pris sa place. Le capitaine et les officiers, alors instinctivement, se souviennent des légendes et des contes qu'on leur a racontés quand ils étaient matelots. Oui, ça ne peut être que ça. Le Hollandais volant. Mais l'apparition de ce navire fantôme traversant les eaux du monde depuis des siècles est considérée comme annonciateur de malheur et de mort. Les deux embarcations qui suivent leur navire à tribord leur envoient dans la foulée des messages, demandant au navire école s'il a remarqué l'étrange lumière rouge. Ils ne sont donc pas seuls à l'avoir vu. L'esprit torturé, le prince George reprend son service, avec à l'oreille les promesses de malédiction évoquées par les officiers de bord. Quelques heures plus tard, à 10h45, sans aucune raison, James, le premier de ceux à avoir vu le vaisseau, tombe de sa vigie dans un hurlement ténu et vient se briser les os sur le pont. Il est mort, mort sur le coup. George, terrifié, se perd dans ses pensées lorsque, peu avant 17h, le corps du jeune marin mort s'enfonce dans la mer. Lui aussi, qui a vu le navire, pourrait-il être victime de sa malédiction ? Qu'il se rassure. Sa malédiction viendra plus tard. Une fois roi, George V verra son pays sombrer dans le premier conflit mondial qui fauchera comme le blé de nombreux fils de la couronne britannique. De là à penser que le Hollandais volant en est aussi le responsable. Il n'y a qu'un pas. On commence à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes aux abords du Cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud. La nuit est tombée depuis quelques heures déjà, et l'apparition du royaume des ombres s'est accompagnée ce soir d'une tempête si retentissante que les rochers se détachent des falaises, visibles au loin. C'est le signe que l'équipage du navire au pavillon batave, qui traverse les éléments comme porté par la Providence elle-même, est sur la bonne route. Les voilà longeant le Cap de Bonne-Espérance, un repère pour chaque marin ou pirate qui prend la route vers les routes commerciales de l'Asie. Le capitaine du vaisseau, Van der Decken, ivre depuis le coucher du soleil, se promène sur le pont de manière totalement imprudente. Battu par les vents et par l'écume des vagues déchaînées s'écrasant sur la coque, son brick chemine tant bien que mal dans des creux d'eau de plus en plus imposants. L'homme est un pirate, craint, respecté par un équipage de vauriens prêts à tout pour gagner de l'argent. Harponner les navires, voler les cargaisons, tuer, violer, voilà de quoi est fait leur métier. Et ce soir, alors qu'ils sont tous téméraires et généralement peu enclins à raconter leurs aventures, tous commencent à murmurer. Rester sur les eaux avec une telle tempête en préparation, c'est tout bonnement de la folie. Un suicide collectif même. Alors Hank, le second de ce navire de malheur, va trouver son capitaine et implore sa clémence. Pour qu'il puisse mettre le cap vers le port le plus proche, prendre un repos nécessaire et surtout, laisser à cette incroyable colère des dieux le temps de se calmer. Cap à bâbord, et dans une heure, ils seront hors de danger. Hank ne parle pas. Il hurle tellement le vent et les éléments qui l'accompagnent se déchaînent, déchirent les voiles et poussent les hommes à la fonte. Au cœur de ce bourbier qui ne fait que s'intensifier, un homme, dressé sur la proue, semble narguer Poséidon et son trident. Van der Decken, le capitaine, sifflote et harangue ses hommes. Oh, c'est à peine s'il écoute son second venu le prévenir. L'homme est grand. et on voit qu'il a été beau autrefois, avant d'intégrer la piraterie et d'en récupérer les séquelles et les cicatrices laissées par le temps. Une balafre longue de 10 cm lui traverse la joue de part en part et une barbe jaunie par la poudre et le tabac vient camoufler son cou sur lequel il s'est fait tatouer un crâne. Son chapeau noir, défraîchi et attaqué par le sel, est plein d'eau comme pourrait l'être une gouttière. Alors que le vent s'arrête pour mieux reprendre son souffle, encore plus fort qu'avant, Van der Decken repousse son second d'un coup de canne, sans lui dire un mot. Plus inquiétant encore, ivre mort, il se met à chanter. Il est certainement victime de délires liés à la boisson et à la peur qui les a tous saisis depuis l'apparition de ces tempêtes folles, incontrôlables. Dans la nuit, montant jusqu'aux éclairs, ces grivoises chansons paillardes ne font qu'énerver un peu plus Poséidon qui déchaîne de toutes ses forces sur lui cette tempête. Hank, lui, dépité, tente de mobiliser l'équipage. Oh, le second est loin d'être rassuré par le comportement de son supérieur. Il sait que sa paranoïa altère sa capacité à prendre des décisions justes, des décisions sensées, et cela le pousse à mobiliser ses partenaires. Le seul moyen pour eux de s'en sortir est de frapper au cœur. Il pense à une mutinerie et renverser ce vieux fou de Van der Decken. Les conspirateurs se sont réunis dans la cale pour échafauder une ébauche de plan qu'il sera sans doute peu aisé de réussir. Les écoutilles se remplissent progressivement d'eau et bientôt, poissons et autres habitants marins se retrouvent là, à leurs pieds. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, bravant la tempête et la figure maléfique d'un capitaine dont les chants résonnent à travers tout le navire, ils sortent, pistolet à poudre et sabre en main. Lorsque la petite bande se présente à Van der Decken, ce dernier, dans un flot ininterrompu de paroles blasphématoires, est en train d'insulter Dieu, son fils Jésus, le diable et tout ce qui va avec. Pas nécessairement la meilleure chose à faire lorsqu'on est pris dans une tempête. Et alors que les rebelles, par la voix de Hank, lui signifient qu'il est mis aux arrêts car trop dangereux, il ne les entend même pas. Totalement hermétique, obnubilé par ses insultes sous l'effet de la boisson, son délire lui donne des yeux de feu que même l'eau qui se déchaîne ne peut éteindre. Il faut que son second en vienne à lever son arme vers lui pour que son attention, enfin, se porte vers les conspirateurs qui essaient de le maîtriser. Mais deux Golgothes que le capitaine a sauvés de Namibie accompagnent Van der Decken et le protègent. Épais comme les mâts, tatoué sur tout le corps, torse nu et noir comme l'ébène, ils inspirent la crainte et dispersent rapidement l'attroupement. Hank, lui, tente de tirer sur son capitaine, mais la pluie a humidifié la poudre et son arme ne fait qu'un long feu. La balle, elle, ne part pas et le mécanisme se bloque. C'est alors que dans un élan de furie, tout droit sorti des profondeurs, le capitaine saisit Hank de ses mains noircies par le temps et la crasse, l'empoigne par le col de sa veste et le précipite par-dessus bord, sans ménagement. Dans un hurlement déchirant, la colère de la nuit, le second plonge dans les abysses et se noie sans que personne, personne ne lui vienne en aide. Voilà de quoi vous mater une rébellion. Van der Decken ne prête même pas attention aux autres marins qui ont essayé de le renverser, pourtant terrorisé des conséquences à venir. Il les passe en revue de son regard noir et continue d'en appeler à sa toute-puissance face à Dieu, Satan et tous les autres. Le dément capitaine brave les éléments, encore et toujours. Son arrogance sans borne est telle qu'il s'adresse maintenant au ciel et défie les éléments d'envoyer son navire par le fond. « Vous n'avez aucune chance !» Ma capacité à parcourir le monde sans encombre est si forte qu'aucune tempête ne peut m'arrêter. Allez bien, Satan, essaye de m'arrêter. C'est alors qu'au cœur de la nuit noire et des nuages chargés de colère s'ouvre une auréole cernée de blanc qui chasse une partie des cumulus. La voilà, la réponse à sa provocation. Sa mort. Avec une facilité déconcertante. Un ultime coup de vent vient fracasser le mât principal, qui s'effondre d'abord sur le capitaine, puis envoie le navire dans les profondeurs de l'océan. Une voix céleste s'élève qui les condamne tous à errer sur les eaux déchaînées du monde, à tout jamais. Ils sont ainsi punis de cette arrogance et de tous les blasphèmes que ce fou de Vanderdecken a pu jeter à la face du dieu des mers, impitoyable depuis des millénaires. Celles et ceux de cette malédiction y prendront la mort dans leur bagage. Ainsi est née la légende du Hollandais volant, navire d'un capitaine reconnu avare et arrogant, condamné à errer au cœur des océans. Maudit par les éléments, le chevalier maritime apporte dorénavant la désolation et la mort parmi les équipages qui auront le malheur de croiser sa route au détour d'une tempête ou d'une nuit agitée. Les marins du monde entier, bientôt, seront terrorisés à la simple évocation de son nom, synonyme de mauvais présage et de malheur. Et son âme,